Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous partageons la lecture aujourd'hui d'un bel album. Et quand je dis bel album, c'est pas forcément parce que esthétiquement il est particulièrement beau. La beauté, elle est toute relative. Enfin, je me permets cette petite introduction parce que forcément vous savez déjà ce que je viens de dire, mais que parfois le beau peut aussi être transmis à travers des choses sombres. Et c'est particulièrement le cas à travers cet album, Le Passeur de Lagune, et Lagune est au pluriel, une parution Futuropolis avec au scénario un certain Christophe Dabitsch, qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, et puis au dessin un certain Pierrot Macola que l'on a aussi rencontré, et pourtant, aussi bien vous que moi Thierry, on avait un petit peu oublié son travail, mais on l'a retrouvé avec grand plaisir ici. Alors, Christophe Dabitsch, peut-être quelques mots à son sujet, parce que je sais que vous aviez vraiment beaucoup apprécié Hieronymus, par exemple, ou alors Abdallahi, et encore Mauvais Garçon, ça vous rappelle des souvenirs, tout ça, Thierry? Le Captivé, peut-être encore.
Oui, alors Mauvais Garçon fait immédiatement sens, parce que Benjamin Flao, un de mes auteurs préférés, parce que Mauvais Garçon, ces jeunes gens qui tournent mal, cette violence des rapports, cette description d'un milieu, d'un endroit, vous parliez de beauté en démarrant la chronique. Le mot beauté s'applique tout à fait au lieu qui sert de décor à cette histoire, c'est Venise. Mais le mot ne s'applique pas avec les clichés qui l'accompagnent d'habitude, parce que c'est la Venise qu'on cache, la Venise qu'on ne montre jamais, la Venise qu'on ne voit pas quand on va en tant que touriste, quoique vous aviez fait l'effort de chercher derrière le décor, la carte postale, quand vous êtes allé à Venise, m'avez-vous dit, la Venise moins décorative, la Venise qui donnait plus une idée de l'état de la société italienne, qui a beaucoup souffert aussi.
Oui, et puis c'est pas très difficile en fait de découvrir ça, il suffit de s'écarter un petit peu des chemins tout tracés, et comme Venise n'est pas extrêmement grande, on peut sentir cette atmosphère-là, mais on peut aussi chercher à l'éviter. Ici, les auteurs ne cherchent pas du tout à éviter la Venise, qui est celle d'aujourd'hui, en train d'évoluer avec tous les points d'interrogation. On ne parle pas nécessairement du risque que vit Venise aujourd'hui, même si c'est évoqué quand même d'être submergé par les eaux, mais on parle de tout ce qui s'y passe et qui est quasiment caché, en effet. On va entrer dans cette histoire parce que c'est encore un portrait de société, un peu comme nous en parlions la semaine dernière sur un autre plan, puisqu'on était au Japon. Là, on est effectivement en Italie, dans un pays qui est flamboyant de par sa beauté, son soleil, mais il y a des côtés nettement moins reluisants et pétillants.
C'est un pays qui est gangréné par le problème des migrants. On le comprend en lisant. Alors, ce n'est pas le seul sujet de cet ouvrage, parce que le sujet, c'est avant tout un jeune homme qui pêche avec son père, à qui son père a appris tous les secrets de la lagune. La lagune est omniprésente, le paysage de la lagune, l'authenticité de la lagune vénitienne. Le père, il est à la fois présent et absent quand commence l'histoire. Mais c'est l'Italie frontière. C'est l'Italie frontière de l'Europe. C'est l'Italie des trafics. C'est l'Italie des passeurs. C'est l'Italie des migrants. Et vous le disiez, c'est une histoire avec des protagonistes qui sont très touchants, très authentiques, très forts, très attachants. Comme la semaine dernière, on parlait des évaporés, qui nous en apprend beaucoup sur l'état de la société, sur les refoulés, sur les choses dont on ne parle pas, qu'on met sous le tapis. C'est une Venise plombée avec une grisaille, quelques clichés qui apparaissent de temps à autre. Les navires de croisière, c'est à peine une silhouette dans le fond d'une case. La digue qui prétend prévenir Acqua Alta, la submersion de Venise, dompter la lagune, mais la lagune ne se laisse pas faire. Est-ce que les efforts des hommes seront suffisants par rapport au principe de réalité qui gouverne la nature qui évolue? C'est une Italie qu'on a vue décrite dans d'autres ouvrages, je pense aux ouvrages de J.P., un auteur qu'on aime beaucoup, voire d'Alfred. Vient de paraître un ouvrage dont on parlera peut-être dans les semaines qui viennent, c'est Maltempo. Alfred, dont on avait dit tout le bien qu'on pensait de Come Prima de Senso, une trilogie italienne qui était plus dans le côté ensoleillé, quoique. Justement, Maltempo et le côté très noir. C'est une Italie révélatrice d'un pays en crise, je pense, d'une Europe en crise.
Alors, j'espère que les Italiens ne vont pas nous envoyer plein de courriers pour nous insulter, hein, parce qu'on ne cherche vraiment pas à dire que l'Italie est un pays dans lequel il ne faut pas aller. Justement, c'est un pays de transition, quelque part, et peut-être lui-même en transition, je ne sais pas, où se côtoient les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. C'est vraiment le cas dans cette bande dessinée, hein, Le Passeur de Lagune. Moi, je n'avais pas personnellement percuté directement par rapport au titre. Parce que
moi non plus.
Il y a lagune, mais on parle généralement d'une lagune, alors que là, le mot est au pluriel dans ce titre. Et puis, par rapport à passeur, je ne m'étais pas du tout douté qu'il allait être question de cela. Et c'est arrivé seulement à moitié d'album où tout à coup, ça a fait tilt pour moi. Je suis très lent, je reconnais.
Je ne vous jetterai pas la première pierre, parce que moi-même, j'ai eu l'identique processus de réflexion. Le jeune homme a appris à passer outre les accidents de la nature, à dompter, à vivre avec les lagunes. Mais le passeur, c'est aussi le passeur des migrants, évidemment. C'est tous ceux qui essaient de se préserver de la violence, de la corruption, de tout ce qui menace ceux qui sont dans ce prolétariat, dans la misère morale et sociale. Comme vous le disiez, c'est un livre qui est beau. C'est pas une beauté académique, c'est pas une beauté plastique, c'est une beauté de vérité. Parce que la beauté, c'est un chemin vers la vérité, c'est une lumière qui nous attire vers la vérité. Ça peut être quelque chose de très académique, mais ça peut être aussi quelque chose de fort, de déstabilisant, qui nous change en profondeur et qui nous fait réfléchir intensément sur notre état, sur l'état du monde dans lequel nous vivons, de notre propre société française. Il y a beaucoup de réflexions qui nous sont venues, en tout cas qui me sont venues à moi, mais à vous aussi, j'en suis bien conscient, j'en suis bien sûr. Avec ce livre et avec le livre dont on parlait la semaine dernière, Les Évaporés, c'est l'exploration d'une société en crise. C'était le Japon, ici c'est l'Europe.
Alors, il ne faut pas croire que ce soit plombant, hein, c'est pas réjouissant,
évidemment.
Non, non,
j'ai conscience d'employer des mots un peu forts, un peu dissuasifs, mais c'est tout le contraire. Si on vous en parle, c'est que c'est un livre tellement fort et tellement puissant que lisez-le.
C'est ce qu'il faut faire. Et pour revenir au terme de passeur, d'ailleurs, il y a une dimension de transmission qui est présente également
oui,
dans ce livre.
Oui, vous parlez de génération, oui.
Tout à fait. Et c'est aussi assez essentiel. Quelle valeur est-ce que l'on cherche à transmettre? Il y a un moment où il y a un échange entre des protagonistes, où l'un d'entre eux dit « personne ne reste innocent » et puis l'autre dit « si, on peut choisir ». Et je trouve cette réflexion-là est peinte à travers l'ensemble du livre vraiment très très profonde et intéressante. On parlait de beauté, mais moi je trouve qu'il y a presque de la poésie en fait, dans ce livre aussi, même s'il est particulièrement âpre. Vous faisiez référence à Gippi, cet autre auteur italien comme Piero Macola. Il y a cette âpreté, mais ce désir de vivre pleinement. Hein. Pour revenir à Piero Macola, d'ailleurs, en reprenant sa biographie, en reprenant les précédents livres qu'il a dessinés, hein, et parfois scénarisés, il y avait Les Nuisibles, Kérosène, Le Tirailleur. À chaque fois, il est très proche de l'humain. Et ça, c'est absolument quelque chose d'essentiel, manifestement, pour lui. Encore une fois, je reviens à une remarque que j'ai faite dans nos chroniques précédentes, c'est qu'on est confronté ici non pas à une bande dessinée informative, mais pourtant, elle nous parle du réel. Et ça, je trouve ça très fort, parce qu'on pourrait avoir une bande dessinée où on nous donne des chiffres, il n'y a pas besoin de chiffres ici. La manière à laquelle le récit, l'histoire nous est transmise, nous en apprend suffisamment.
La semaine dernière, c'était une atmosphère de roman noir, de polar, qui nous renseignait sur un milieu social, un vécu. Alors, le terme poésie est diablement bien trouvé. C'est vrai que c'est un livre très poétique, dans son dessin, dans sa mise en couleur. Pas la poésie des petites fleurs et des vertes prairies, c'est la poésie âpre, dure, des sentiments, de la vie, de la mort, du rapport de ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui corrompt l'individu ou ce qui peut l'élever. Une forte poésie, c'est très bien trouvé. Bravo.
Non,
faut
mais
le dire.
Voilà, c'est ce qui est venu. J'ai trouvé cet album sombre particulièrement éclairant. Passeur de Lagune, Christophe Dabitch au scénario, Piero Macola au dessin. Vraiment une parution Futuropolis qui mérite que vous vous y penchiez, que vous la lisiez, que vous la gardiez bien près de vous. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé encore cette lecture avec nous aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres choses encore. À bientôt.